Eh bien voilà, il est 18h01 sur Radio Campus Paris, nous sommes le lundi 20 mars, il paraît que c'est le printemps, mais en tout cas c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, et comme tous les 15 jours, la relève vous propose de passer 30 minutes pause musicale comprise avec un jeune talent. Aujourd'hui, on va parler de non-fiction, de chiens et de stress post-traumatique. Mon invité est autrice. Bonjour Aurélie Champagne.
Bonjour.
C'est magique, vous êtes avec moi. Vous êtes l'autrice de La part du chien, un ouvrage qui vient de paraître dans une nouvelle collection qui s'appelle 21 bis. La collection, donc, je répète bien pour que ce soit clair, s'appelle 21 bis et le livre La part du chien. Mais pour commencer, comme ce sera sûrement la seule fois dans ma vie où je pourrais vous le demander à quelqu'un, je ne pouvais pas faire autrement que vous poser la fameuse question: est-ce que vous aimez les chiens ?
Eh bien, figurez-vous que j'avais une trouille bleue des chiens, en fait, avant de commencer ce sujet. J'étais pas du tout rassurée. Donc non, à la base, j'aime pas spécialement les chiens. Je pense pas d'ailleurs que le bouquin soit particulièrement destiné aux gens qui adorent les chiens. Hein, je pense pas que ça se restreigne en tout cas à ça, quoi.
Bien, mais évidemment, c'était une plaisanterie en rapport avec la blague que c'est les guignols, ouais, à l'époque autour d'autres.
Vous avez vu comment je vous réponds hyper sérieusement ?
Ah oui, j'ai vu ça. Mais moi aussi, j'ai très peur des chiens, donc j'ai eu de la trouille pendant en lisant tout votre livre. Dans cette collection, vous êtes primo-autrice. Donc c'est une collection qui propose des reportages littéraires. C'est pas un roman, c'est pas vraiment un essai. Et donc, on apprend que vous avez écrit cet ouvrage suite à un programme qui s'appelle Arion, dont on reparlera après, mais dans le cadre d'une mission d'ethnographie avec l'Université Paris-Nord. Alors, je voulais savoir, vous êtes aujourd'hui ethnographe, comment vous êtes arrivé à travailler avec l'université ?
En fait, j'ai travaillé avec un anthropologue, un sociologue, qui est spécialiste de la relation homme-animal, qui s'appelle Christophe Blanchard. Et c'est un chercheur que j'ai rencontré il y a à peu près une quinzaine d'années, à une époque où je bossais comme journaliste chez Rue 89, à l'époque où Rue 89 était un site encore indépendant, et c'était vraiment une petite fabrique d'informations hyper intéressante. Et moi, je travaillais sur le sans-abrisme, en fait, sur le système D de personnes qui habitent dehors, à Paris, et qui ne demandent plus rien à personne. Et je suivais dans le cadre de ce travail-là, qui était un travail de chronique, en fait, au long cours, où je ne me rendais pas vraiment compte à l'époque, mais j'utilisais déjà un peu des moyens de ce qu'on appelle aujourd'hui non-fiction, mais à l'époque, le mot n'était pas à la mode, etc. Et donc j'étais entre la non-fiction et en même temps, un travail de recherche, c'est-à-dire que je faisais de la documentation, j'éclusais un peu tout ce que la recherche produisait, en fait, sur le sans-abrisme. Bref, dans le cadre de ce boulot-là, je me suis mise à bosser avec Christophe Blanchard, qui bossait sur les chiens et qui bossait notamment sur les chiens de SDF. Et à partir de là, on a commencé à travailler ensemble. Ce que je faisais, en gros, moi, je prenais du son brut, en fait, de personnes qui donc, du coup, vivaient dehors, et je dessinais les personnes qui vivaient dehors. Je dessinais avec leurs chiens, et ça créait quelque chose, en fait, qui relevait, à ses yeux, d'une démarche ethnographique hyper intéressante. Donc, on a commencé à bosser sur le sans-abrisme, sur les punks à chiens, en gros, les punks à bestia, comme disent les Italiens à l'époque. Et on ne s'est plus vraiment quittés, en fait. Et donc, quand l'armée est allée le chercher, en fait, pour monter le comité scientifique de son programme, il est venu il m'a demandé, en fait, si je voulais bien bosser avec lui comme ethnographe, parce que, d'une certaine manière, cette histoire d'Arion se résume en deux secondes, c'est-à-dire que c'est un homme cassé qui rencontre un chien
qui va
cassé,
pas beaucoup mieux, oui.
et qui rentre chez lui, et si on estime qu'il est en capacité de s'occuper d'un animal et que l'animal est en capacité de vivre avec cet homme, les deux s'ajustent en un binôme et rentrent chez eux. Donc, une fois que vous avez dit ça, en fait, ça se résume vite. Et pour aller chercher un peu la sève, la chair de ce qui se passe, en fait, les mécaniques un peu fines de ce qui se passe dans ce programme, il a fait appel à moi, quoi.
Mais alors, pour être clair, les hommes cassés sont des hommes particuliers parce que ce sont des militaires qui sont en situation de stress post-traumatique.
C'est ça. Le programme Arion, en fait, c'est un programme qui a été monté par l'armée française il y a quelques temps et qui se veut une réponse expérimentale à un sujet
programme
de fond
américain.
Qu'à l'armée l'armée française, mais pas que l'armée française, aussi pas mal d'armées européennes et les armées, notamment outre-Atlantique, armée américaine, qui concerne les soldats blessés. En fait, aujourd'hui, quand vous êtes militaire et que vous êtes la blessure de guerre, en fait, la plupart du temps est une blessure psychique. C'est-à-dire que on ne se blesse plus, enfin, on se blesse aussi en sautant sur des bombes ou avec toutes les représentations presque cinématographiques qu'on peut avoir, mais la plupart des blessés que recense l'armée de terre sont des gens en état de stress post-traumatique. Et ce sont des gens qui évoluent la plupart du temps aux marges de l'armée, qui ont des prises en charge très longues, beaucoup plus longues, si vous voulez, qu'une blessure physique pour laquelle l'armée, finalement, va pouvoir faire de la reconstruction faciale, proposer des programmes de réinsertion, etc. Mais il y a un ajustement, en fait, une prise en charge médico-sociale qui est hyper au point. Autant le stress post-traumatique, c'est une blessure invisible, une blessure qui est hyper compliquée, en fait, à soigner.
Comment on le définit,
du coup, ce
stress?
Est une réponse.
Ah, pardon. Comment on définit ce stress post-traumatique? Parce que j'ai l'impression, par exemple, chez vos militaires, enfin, chez ceux que vous avez vus, ils sont souvent en état d'hypervigilance, comme s'ils étaient encore sur le terrain, comme s'ils étaient toujours effrayés à l'idée que peut-être l'ennemi est au coin de la rue, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, moi je suis pas psy, hein, mais la manière dont la psychiatrie, notamment la psychiatrie militaire, qui s'intéresse depuis très longtemps, en fait, hein, à ces phénomènes qui existent depuis que le monde est monde, en fait, hein, même chez Homère, il y a des traces de stress post-traumatique dans les textes, des textes de Saint-Barthélemy, etc. Il y a des traces partout, en fait, qui ponctuent l'histoire humaine, l'histoire des conflits notamment. Mais aujourd'hui, en fait, le stress post-traumatique, alors je vais pas vous donner la définition au carré de la psychiatrie, je vous renvoie au DSM-5 qui pose une définition dans les années 80, en fait, au moment où il y a plein de soldats américains notamment qui rentrent du Vietnam et où les agences de santé qui sont face au problème de comment on fait pour indemniser, en fait, ces bonhommes qui rentrent complètement dévastés des combats, comme on fait pour les prendre en charge et pour les indemniser. Donc à ce moment-là, la psychiatrie militaire et la psychiatrie mondiale même met au point dans le DSM une définition. Ce qu'on peut dire sur le terrain, c'est que les hommes que je raconte dans ce livre sont des hommes qui sont en proie à des eknésies, c'est-à-dire c'est le retour systématique de souvenirs très intrusifs, des cauchemars, des symptômes qui tout à coup surgissent dans votre quotidien. On parle de maladies de la mémoire, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont en hypervigilance, qui n'ont plus de vie, en fait, qui n'arrivent plus à se détendre. Il y a, parmi les blessés que je suis, il y a des hommes qui n'arrivent même plus à prendre leurs enfants dans leurs bras, en fait. Il y en a un qui n'arrivait plus à parler non plus. Donc c'est des jeunes hommes, généralement, ou alors à l'inverse, des militaires qui sont à la retraite, en fait, qui sortent un peu d'années de service et qui sont un peu recrachés par la marée, quoi, et qui sont en proie à des traumatismes, à des hallucinations. Et généralement, la réponse de la psychiatrie notamment, et de la psychiatrie militaire, elle passe par des traitements médicamenteux assez lourds.
Ouais.
Le programme Arion, lui, il essaye de tricoter une proposition de... C'est pas un programme médical, c'est pas un programme qui prétend soigner, mais il essaye de proposer quelque chose qui passe par la médiation animale, par le fait de mettre un animal au milieu d'une vie qui n'est plus fonctionnelle, avec quelqu'un qui souvent n'arrive plus à sortir de chez lui, en fait, ni même parfois à se rendre au travail, à faire des choses très élémentaires, de mettre un chien au milieu dans l'espèce de petite tambouille quotidienne et de voir ce qui se passe, de voir s'il y a une relation qui est possible ou pas. Je ne sais pas si c'est très clair
Si, c'est très clair. Il se trouve que par un hasard de bibliothèque, juste avant de lire votre livre, j'ai lu un roman de Jean Michelin, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle Ceux qui restent, qui est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, qui raconte aussi une histoire de stress post-traumatique, puisque c'est un de ces soldats qui a disparu. Et ce que j'ai réalisé, moi, auquel j'avais jamais pensé avant et pour cause, c'est que on vit avec des imaginaires de guerre qui sont les grandes guerres massives, genre 14-18 ou même la guerre de 39, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça, la guerre. Et ce que vivent ces hommes, et ces femmes, parce qu'il y a des femmes aussi, n'a plus du tout rien à voir aujourd'hui avec l'imaginaire que nous, on en a. peut-être qu'ils ont même un... Vous racontez un peu ça, parce qu'il y a un moment, vous montrez que sociologiquement, c'est des gens qui n'étaient pas forcément faits pour l'armée, mais qui y sont allés parce que c'était pour une école de la dernière chance et qui ne savent pas du tout ce à quoi ils s'attendent.
Alors, c'est ce que raconte effectivement un des cynotechniciens, des maîtres chiens militaires qui sont des types en fait assez... qui ont longtemps manqué de reconnaissance, en tout cas dans l'armée, et notamment dans la marine, mais aussi dans l'armée de terre. Et c'est-à-dire c'est que cette idée que, effectivement, souvent, on a une représentation du soldat quasi cinématographique, il y a des grands récits, etc. Sauf que depuis que l'armée s'est professionnalisée, en fait, et depuis que le service militaire obligatoire s'est arrêté, l'armée a dû recruter. Et elle a vu arriver dans ses rangs tout un tas de jeunes gens qui étaient pas forcément des gens qui s'engageaient pour le drapeau ou pour
des valeurs militaires. Ouais.
Voilà, ouais. C'est ça. Et c'était aussi des gens qui venaient de familles où il n'y avait pas forcément ces grands récits, il n'y avait pas cette espèce de grand récit fédérateur, vous voyez, où, qu'on se racontait autour de la table en famille, hein, bah, tu vas bientôt faire ton service militaire, ce truc quasi initiatique, en fait. Là, ils arrivaient parce que, faire partie de l'armée, s'engager, c'était aussi avoir 1500 euros par mois, c'était porter un uniforme, peut-être être quelqu'un, avoir une arme, peut-être
passer
faire un voyage en partant en OPEX, passer les permis ou passer effectivement des permis poids lourds, etc., tout un tas de diplômes ou de permis ou de certificats que la vie civile, en fait, ne permettait pas de passer parce que c'est trop cher. Et donc, l'armée a vu affluer tout un tas de jeunes gens qui étaient très différents, en fait, et qui passaient pas par cette espèce de sas d'un an que constituait le service militaire, qui permettait finalement aux jeunes gens qui étaient appelés de se faire une idée un peu concrète, quoi, de ce qu'était l'armée. Ce qui fait qu'il y a plein de jeunes gens qui arrivaient et qui se prenaient finalement l'armée en pleine face, parce qu'il y avait un réel décalage entre ce qu'ils avaient imaginé et ce qu'ils vivaient sur le terrain.
Vous les avez, j'ai envie de dire, vous les avez castés, ceux dont vous parlez dans ce livre, ou vous avez vraiment suivi une séance, la séance elle dure sur plusieurs semaines, plusieurs mois même, voire plusieurs années.
Mais quand vous dites casté, c'est ça que vous dites?
Oui, ce que je veux dire, c'est que vous avez choisi, vous avez mélangé plusieurs sessions, vous avez vraiment, ce que vous racontez, c'est, ça s'est vraiment passé comme ça?
Alors, ce que j'ai raconté, ça s'est vraiment passé comme ça. En fait, moi, j'ai suivi la manière dont j'ai bossé en fait avec la Sorbonne pour évaluer le programme, voir comment l'armée s'y prenait, comment elle recrutait les blessés finalement qui faisaient partie du programme. Et donc du coup, j'ai suivi de bout en bout le programme, l'arrivée des blessés, des jeunes gens, des stagiaires finalement. La prise en charge
oui, pardon,
des stagiaires.
Pardon, mais je me rends compte que on n'a pas encore peut-être très bien expliqué le programme, parce que je ne voulais pas qu'on rentre trop vite dans le sujet. Donc pardon, il faut quand même qu'on explique aux auditeurs, c'est que donc, des militaires se retrouvent dans un centre de la SPA et vont devoir choisir un chien.
C'est-à-dire que le programme, en fait, propose à des militaires qui sont désireux de le faire la possibilité d'adopter un chien. Pour adopter un chien, c'est pas que adopter un chien, en fait. Pour ces jeunes gens qui sont en état de stress post-traumatique, adopter un chien, ça veut dire qu'il va falloir s'en occuper, ça veut dire qu'il va falloir nouer une relation, sortir, manger, renouer avec l'espace et le temps. Et souvent, c'est finalement, les maîtres sont très, très éloignés de gestes très élémentaires quotidiens. Donc le programme, en fait, propose à des jeunes militaires qui sont vraiment sur la brèche de rencontrer des chiens. Et ces chiens, c'est pas n'importe quel chien, ce sont des chiens de SPA. Donc, ce sont des chiens qui ont été sélectionnés par des maîtres chiens militaires, qui ont vu un petit peu jauger les chiens, qui les ont travaillés, en fait, qui ont assemblé une espèce de meute, en fait, de jeunes chiens. Et ce sont souvent des chiens qui ont eux-mêmes eu une vie, deux vies, trois vies avant. Et souvent, c'est des chiens qui ont eu une vie qui a été traversée par l'abandon, par de la maltraitance, parfois par de la négligence. Et donc le programme propose à des hommes qui n'ont plus confiance en rien de rencontrer des chiens qui, souvent, doivent faire retour vers l'homme, plus confiance en l'homme non plus. Et donc sur ces deux fragilités-là, on met en présence hommes et chiens, on les accompagne et on voit si une relation est possible. on observe en fait. Et on accompagne l'homme et le chien dans leur ajustement l'un à l'autre en fait. Ce programme-là, il s'inspire d'un programme américain, qui est un programme des Marines, qui eux utilisent des chiens qui sont des chiens issus d'élevage, donc pas du tout des chiens, des, pour le dire très vite et très mal, des bâtards de SPA qui sont un peu des chiens, on sait pas trop sortis d'où, on sait pas trop souvent ce qu'il y a dans leur vie. L'armée américaine, elle, dépense des fortunes pour caster des chiens d'élevage, les faire dresser, élever, monter, on dit, par des entreprises privées qui vont rendre ces chiens capables de travailler en odorologie. C'est-à-dire que c'est des chiens, c'est des super chiens, qui sont capables de sentir quand leur maître rentre dans des crises d'angoisse. La crise d'angoisse, la montée de stress, la montée de cortisol, c'est vraiment un des grands marqueurs, en fait, symptomatiques du stress post-traumatique. Donc c'est des chiens, en fait, qui vont être capables de flairer quand leur maître commence à se sentir mal, ou la nuit quand un cauchemar arrive. Et donc ce programme américain a beaucoup impressionné un colonel français qui était en visite chez les Marines, et il est rentré en France avec l'idée que ce serait super que l'armée française puisse adapter ce programme. Sauf que l'armée française n'avait pas de budget équivalent à consacrer, et surtout l'idée, ça a été de faire travailler un régiment de l'armée française qui s'appelle le 132e régiment de l'armée française, et c'est le régiment de l'armée de terre d'où sortent tous les chiens de l'armée, en fait. Donc c'est des chiens, c'est le régiment qui forme les chiens de stup, les chiens explosifs, enfin des chiens d'explos, les chiens de recherche, etc. Et l'idée, ça a été d'utiliser l'espèce de connaissance d'hyperspécialisation de vieux cynotechniciens de l'armée, et de les mettre au service de ce programme-là, pour que ces bonhommes-là, qui sont, pour le dire très simple, enfin très vite, mais ces espèces de génies du chien, quoi, pour qu'ils aident les chiens, en fait, à se mettre au service de l'homme, de leur maître, pour qu'ils aident les chiens à accepter déjà cet homme, à essayer de piger comment il fonctionne, et à essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. C'est ça qui est très intéressant à regarder, c'est qu'en fait, les cynotechniciens misent sur le fait que les chiens de SPA sont des chiens beaucoup plus réfléchis que plein d'autres chiens. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient eu une vie compliquée, qu'ils soient des chiens cabossés, a amélioré en fait la manière dont ils vont lire les hommes, dont ils vont lire les situations, dont ils vont décrypter leur maître. Et du coup, c'est des chiens qui vont gamberger et qui vont chercher des solutions. Ils vont chercher ce qu'ils peuvent faire pour se mettre au service de leur maître. Et c'est là-dessus, en fait, que repose la quasi-globalité de ce programme.
Juste un point. Le processus d'adoption est très long, en fait, parce qu'ils viennent une semaine, ils repartent. Ça dure combien de temps, en fait ?
Alors, en tout, le stage dure 5 semaines. C'est-à-dire que les stagiaires arrivent. Ouais. Pendant la première semaine, ils vont au chenil, au refuge. Alors, souvent déjà, c'est tout un truc, parce qu'en fait, c'est les humains, côté humain, ben, il y a beaucoup d'insomnie, beaucoup de cauchemars, donc il faut déjà un temps d'adaptation, en fait. Souvent, ça a demandé beaucoup d'efforts au bonhomme de sortir de chez lui, de traverser la France, d'arriver dans ce refuge. C'est des endroits très bruyants, etc. Donc, on prend le temps, pendant une semaine, en fait, les stagiaires rencontrent des chiens. Voir si ils ont le feeling, s'ils s'entendent plus ou moins avec tel ou tel chien, s'il y a quelque chose qui se passe en fait dans la relation. Généralement, au bout de 2-3 jours, la poignée de stagiaires, c'est une poignée d'hommes, hein, c'est un programme qui est vraiment très expérimental, c'est vraiment le tout début du programme.
Ouais, ils sont 4-5 dans votre récit.
Ouais. Ouais. Généralement, il se passe un truc entre les stagiaires et les chiens. Ils mettent des mots très différents là-dessus, les uns les autres, mais il se passe quelque chose au niveau de la rencontre. Et les cynotechniciens, eux, sont là pour apprendre aux stagiaires le béaba, de voilà comment on s'occupe d'un chien, voilà ce que c'est un chien. Et un chien, en fait, derrière ça, c'est encore une fois, un chien, c'est pas que un chien, c'est le retour vers le vivant, il faut le sortir. Donc c'est des grandes balades de plein air. Et en fait, ça remet petit à petit le maître en mouvement, en fait. Souvent, c'est des gens qui ont été des grands sportifs et qui sont un peu figés, en fait, dans leur traumatisme, dans leur crise d'anxiété, dans leur et un peu tassés souvent aussi par les médicaments. Et donc, l'homme, petit à petit, se remet en marche. Ça, c'est la première semaine. Ensuite, les stagiaires rentrent chez eux et réfléchissent. Est-ce qu'ils ont ou pas la place pour adopter un chien, s'ils ont une envie profonde d'adopter un chien. Généralement, c'est un moment en fait qui est un peu compliqué parce que c'est un moment où les stagiaires se rendent compte que la vie qu'ils vivent ne va pas forcément permettre en l'état à un chien de s'épanouir, c'est-à-dire que le niveau d'enfermement, ça peut être plein de trucs, le rapport à la nourriture, ne va pas forcément permettre d'accueillir un chien dans des conditions optimales. Donc, il va falloir qu'ils fassent évoluer un peu leur quotidien pour que le quotidien, pour qu'ils puissent permettre à un chien d'être heureux, en gros, schématiquement. Et donc, après cette semaine, qui est dite semaine de réflexion, si les stagiaires ont toujours envie d'adopter un chien, ils ont la possibilité de revenir à Carcassonne, dans la SPA, à l'endroit où se passe le stage. Et là, à partir de là, ils commencent à travailler leur chien. C'est-à-dire qu'ils commencent à faire des exercices d'obéissance. Voilà. Et à partir de là, les binômes, en fait, hommes-chiens, qui se sont choisis, entre guillemets, à ce stade, s'ajustent, en fait. Ça fonctionne sur la connaissance de l'autre. Les exercices sont un peu plus difficiles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça se passe aussi au rythme du blessé, en fait. Les maîtres, c'est pas n'importe quel maître. C'est vraiment à chaque fois, il faut prendre en compte l'état dans lequel ils sont. Et au bout de cette semaine, qui est la troisième semaine, les stagiaires rentrent chez eux avec leur chien et voient comment ça se passe à la maison pendant 15 jours. Et ensuite, ils reviennent pour une dernière semaine. Donc, en tout et pour tout, le stage, la rencontre dure 5 semaines.
Très bien.
Homme-chien. Et ensuite, il y a un suivi pendant un an des maîtres-chiens qui suivent. Ils ne lâchent pas ni les hommes ni les chiens dans la nature. Les maîtres-chiens, en fait, suivent pendant tous les mois. Ils vont au domicile des stagiaires pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, moi, c'est un travail que je continue à suivre.
On va écouter un tout petit peu de musique et on se retrouve avec vous, Aurélie Champagne, tout de suite. Oui.
Surrender to
C'était Depeche Mode qui chantait Even, alors que sort cette semaine leur nouvel album Memento Mori.
La relève sur Radio Campus Paris.
Alors on est toujours avec vous Aurélie Champagne, je rappelle que vous êtes autrice de La part du chien dans la collection 21 bis, une nouvelle collection qui vient de sortir, je ne sais pas si vous êtes toujours là, j'ai toujours ce moment d'angoisse.
Oui, je suis toujours là. J'ai
toujours un petit moment d'angoisse au téléphone comme ça. Alors comme vous êtes très très passionné et que c'est très très passionné, il ne nous reste plus beaucoup de temps, je voulais savoir vous, à quel moment vous avez choisi cette forme-là plutôt que d'aller vendre un reportage à un journal comme vous auriez pu le faire. Vous êtes dit, il me faut cet espace-là. Et c'est 21 bis qui est venu vous chercher parce qu'il vous connaissait ou...
Ouais, c'est 21 bis qui est venu me chercher. Et en fait, je n'étais pas du tout partie dans l'idée d'en faire un récit purement journalistique, en fait. Et parce qu'il me semblait qu'il fallait pas mal de temps et que l'idée, c'était pas de... c'était pas d'en faire un simple reportage, en fait. Voilà, je ne sais pas vraiment comment expliquer le truc. Et il se trouvait que 21, à ce moment-là, avait pour ambition de monter une collection de récits non-fiction qui proposerait, avec toujours leur patte, une manière d'aborder les récits, de privilégier le temps long, etc. Et il m'a semblé que c'était le cocon assez parfait pour travailler ce petit récit qui finalement tient sur 5 semaines, quoi. C'est-à-dire que là ce reportage raconte 5 semaines de ce programme, qui est un programme au long cours, en fait, que je suis partie pour suivre sur un temps un petit peu plus long.
Ça, c'est pour l'université, ça. Sur un temps plus long, c'est pour l'université.
Exactement. Et ça me semblait pas mal, en fait, de pouvoir avoir une variation de narration, en fait, d'en faire une petite narration pour 21 bis. Ça me paraissait être l'occasion, si vous voulez, de poser les jalons du travail universitaire que je déploie là depuis un an et demi, quoi.
Vous êtes aussi romancière, vous avez publié Zébu Boy chez Monsieur Toussaint Louverture. Vous pensez que ça pourrait alimenter plus tard des fictions, ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, ce que vous avez observé?
En fait, je me suis rendu compte à posteriori qu'il se trouve que Zébu Boy raconte l'histoire d'un soldat qui rentre de la Seconde Guerre, un soldat indigène malgache qui, à la démobilisation, rentre dans son île au moment où Madagascar est soufflé par une insurrection anticoloniale, anti-française. Et c'est l'histoire d'un bonhomme qui rentre dans son pays sans chaussures, sans dignité, sans rien. Et je me suis rendu compte, en fait, en bossant sur la part du chien et en bossant sur ce récit, que finalement, j'avais posé un héros qui était presque en état de stress post-traumatique, en tout cas qui avait toute une symptomatologie de SPT. Et donc, du coup, c'est plutôt à rebours, si vous voulez, que ça se joue. J'ai plutôt l'impression que maintenant, je mets une traumatologie, quoi, sur un personnage que j'ai produit sans y penser, quoi.
Mais vous savez si votre prochain travail, ce sera plutôt de la non-fiction ou du romanesque?
Mon prochain travail, ce sera du romanesque. Là, non, c'est du romanesque. Je suis en train d'écrire mon second roman. Et voilà. Mais à côté, je continue toujours cette plongée un peu dans la cynotechnie et dans l'armée française. Mais là, le prochain travail, ce sera romanesque.
Très bien, merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne, malheureusement. Je rappelle que La part du chien est donc un reportage littéraire d'Aurélie Champagne. C'est paru chez 21 bis. Et puis comme on est à la radio quand même, il faut dire que chez 21, nouvelle formule, enfin je ne sais pas si une nouvelle formule, en tout cas, il y aura des podcasts avec une grande voix de la radio à la manœuvre qui s'appelle Pascal Clark et qu'on est heureux de la retrouver enfin.
Merci.
Voilà, c'était La Relève, c'était produit présenté par Christophe. La réalisation était assurée par la muette Alison. C'est une expérience que je recommande. Vous pouvez retrouver l'émission et toutes les précédentes ou presque sur le site internet de Radio Campus Paris, rubrique La Relève à 19h. C'est la matinale et elle est présentée ce soir par quelqu'un.